Et on va prendre donc 1 Corinthiens, là où nous sommes aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 1er au verset 17, que l'on va lire une première fois, attentivement. 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 1er au verset 17. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Prions. Seigneur, nous voulons nous en remettre encore aujourd'hui à toi, à ta parole, Seigneur, à ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, parce que c'est toi qui sais ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Tu connais la part que chacun doit recevoir. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie que nos cœurs soient ouverts. Je te prie, Seigneur, que nous puissions te louer et te glorifier à la fin de ce culte, dans tout ce qui sera dit, parce que toutes choses viennent de toi. Toutes paroles viennent de toi. Ta parole est là pour contribuer à la vie, à la piété. Voilà pourquoi, Seigneur, enseigne, parle. Parle, car tes serviteurs écoutent. Merci, Seigneur, encore une fois, parce que tu ne te tais pas devant nous, Seigneur. Ta Bible, ta parole que nous lisons, Seigneur, elle sait toujours où elle doit aller. Et Seigneur, je te prie encore qu'aujourd'hui, tu puisses, Seigneur, te faire connaître à chacun. Et si quelqu'un ne te connaît pas aujourd'hui, qu'il puisse te connaître par le biais de ce passage. Et s'il te connaît, qu'il puisse grandir et marcher selon toi. Merci en tout cas, mon Dieu, pour ton amour. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que toute gloire te soit rendue encore en ce jour. C'est en Christ que je fais cette prière. Amen. Nous arrivons chapitre 7. Chapitre 7. Sur la suite, va commencer à être plus particulier, plus dans les particularités de la vie. Au début, c'était assez général, depuis le début de la lettre aux Corinthiens, Paul rappelle la priorité du chrétien, rechercher la sainteté. Et la sainteté ne peut venir du fait que Christ crucifié soit prêché et vécu par l'Église. Accepter de mourir pour nos péchés, abandonner notre ancienne manière de vivre pour mener une vie nouvelle par Dieu en Jésus-Christ. Nous avons vu que si nous ne mourons pas à nos péchés, si nous ne sommes pas morts à tout cela en Christ, nous continuerons à vivre dans la débauche. Une vie à la corinthienne. Et Dieu a donné des ouvriers pour amener les chrétiens à être une habitation digne de Dieu, un temple saint. Si nous rejetons l'enseignement si nous contestons, si nous commentons, si nous ne recevons pas la parole de Dieu comme elle l'est vraiment et non pas la parole d'un homme, nous resterons prisonniers de notre sagesse humaine, critiquant toujours la parole et parlant toujours pour ramener les gens à nous, à notre parti, à diviser et non plus à la délivrance du péché, à Christ crucifié. Ne détruisons pas le temple de Dieu. Dieu est très sévère avec ceux qui détruisent son temple. Il est dit, je les détruirai aussi. Son habitation, c'est nous. Nous qui avons cru en son nom, nous sommes son habitation en esprit. Nous sommes un lieu saint, alors nous ne pouvons offrir à Dieu une habitation indigne de lui. Avant d'aborder cette suite avec les questions, c'était les points principaux qu'il voulait aborder. Si on veut les partager en trois parties, on dira qu'il a parlé d'abord d'exhorter à l'unité, un même langage, une communion, pas de division. Il les a repris dans leur attitude pour qu'ils écoutent la parole pour la vivre et non pas la juger, la commenter. Mais il a aussi corrigé une manière de vivre qui était dans la débauche afin qu'ils s'éloignent du péché mais qu'ils vivent dans la sainteté. Et maintenant que c'est fait, Paul va répondre au sujet, au cas, aux problèmes, aux questions que les Corinthiens lui ont posées. On peut revenir au verset premier. Il dit, « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. » Ça veut dire que les Corinthiens ont écrit quelque chose très simple à Paul. Plusieurs choses même. Il dira plus tard qu'il n'a même pas pu répondre à toutes les questions. Parce qu'ils avaient beaucoup de questions, beaucoup de cas, beaucoup de sujets qu'ils ont présentés. Des problèmes, des questions, des cas d'église de Corinthe. Et vous vous rappelez la dernière fois qu'il était dit dans Corinthe, « Je le dis à votre honte, dit Paul, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. » 1 Corinthiens chapitre 6, 5. Donc celui qui va amener du jugement là-dedans, c'est Paul. Et si vous voyez l'histoire, comme ils ne trouvaient personne, les gens de Chloé ont appelé qui ? Ils ont appelé Paul. Parce qu'on se retrouve dans une église qui vit dans les divisions, les rivalités, les disputes. Vous trouvez que c'est normal ou anormal d'avoir des problèmes dans une telle église ? Des cas à présenter ? S'il y a tant de rivalités, de divisions, c'est qu'il y a sûrement beaucoup de cas, beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que Paul n'a pas réussi à répondre à tout. Et la mauvaise conduite des Corinthiens, c'était déjà le premier cas à traiter. C'est ce que vous avez vu du premier verset du chapitre 1er jusqu'au chapitre 6. La rivalité au milieu de l'Église, c'était le premier cas. Si ça, ce n'est pas réglé, c'est difficile de continuer. C'est difficile si tout le monde prend des partis au lieu de venir à Christ et dire simplement « Moi, je veux obéir à Dieu ». L'Église de Corinthe, nous l'avons vu dans les chapitres précédents, était centrée sur l'homme. La capacité de l'homme à avoir de beaux discours, à plaire aux autres. C'est ce qui a amené les divisions. Avec une attitude, on l'a vu dans le chapitre 6, qui vise à dépouiller les autres frères, allant même jusqu'à leur faire des procès pour avoir ce que l'on veut. Chacun pour soi et moi d'abord. Tout en laissant le péché croître dans l'Église. Il y avait des cas, vous l'avez vu, qui étaient pires que où ? Que chez les païens. Toutes ces choses démontrent que cette Église n'est pas apte à juger tous les cas qu'il y a dedans. Et ils ont besoin d'une aide extérieure. Ils ont demandé à Paul. Ils manquent de sagesse au vu de leur mauvaise conduite. Alors avant même de traiter les questions particulières, Paul a traité le cas de l'Église tout entière. Tout entière. Et cela est important. Si Christ crucifié n'est plus le fondement, si chacun cherche ce qui lui plaît, on peut même se poser des questions sur la raison pour laquelle il pose ses problèmes devant Paul. S'il ne cherche pas la sainteté, pourquoi est-ce qu'il pose ses questions à Paul ? Parfois, il y a des cas ou des sujets que l'on présente en jugement, mais qui ont un autre but que d'amener la justice de Dieu. Rappelez-vous, les Corinthiens cherchaient leur justice. Ils cherchaient à être reconnus comme sages. Alors que pour notre Dieu, la sagesse, c'est quoi ? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Paul voulait ramener cette sagesse au milieu de l'Église. amener les hommes et les femmes à s'éloigner du mal, vivre loin du péché, comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait déjà dans les évangiles. Quand vous lisez l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc, vous voyez le Seigneur qui essaie toujours de ramener tout le monde où ? À s'éloigner du péché. Pourtant, il y a des gens qui venaient poser des questions qui avaient l'air très spirituelles, mais le but, ce n'était pas de s'éloigner du péché. Ils avaient une apparence spirituelle, ces gens qui venaient de poser des questions, mais leur attitude n'était pas spirituelle. Ils étaient aveuglés par leur péché et agissaient, selon la méchanceté dans leur cœur. On peut voir un cas que l'on connaît bien, en Jean chapitre 8, versets 1 à 7, où des personnes viennent poser des questions à Jésus. On va voir qui pose les questions, quel cas ils ont présenté, pourquoi ils ont posé la question et quelle réponse a donné le Seigneur. 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Ah, voilà un problème quand même. On continue. « Moïse, il ouvre la Bible, dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier, la pierre, contre elle. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde le connaît. Mais on ne se rend pas compte que là, ce sont des gens qui sont reconnus comme étant des religieux, des gens qui sont censés être spirituels, et ils arrivent, ils posent une question, et c'est pour quelle raison ? C'était pour s'éloigner du péché ? Non, c'était pour le piéger. Et ça, c'est une attitude que parfois, on peut avoir, on veut descendre quelqu'un. Celui qui pose la question, c'est les scribes, les pharisiens, des hommes d'apparence spirituelle, on reconnaît facilement leur manière de s'habiller, mais qui ont une vie qui n'est pas du tout conforme à la vie selon ce que Dieu attend. Mais ils ne regardent pas à leur vie, ils regardent à la vie de cette femme adultère. La pire, c'est qui ? C'est elle. On va présenter quoi ? Son cas. Qu'est-ce qu'on fait ? Que dis-tu ? Question piège. Et que va répondre Jésus ? Les ramener à leur propre péché, afin qu'ils changent d'attitude. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ramenons d'abord à notre cas avant de parler d'autres personnes. C'est l'enseignement qu'on a là. Parce que le changement, ça doit commencer où d'abord ? Dans notre vie. Le temple qui ne doit pas être souillé, c'est d'abord le nôtre. Mais ils ont ramené cette femme et vous direz, bon, ça veut dire quoi ? Qu'elle pouvait continuer à vivre comme ça alors ? Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Il va lui dire quoi d'ailleurs à cette femme à la fin ? Va et ne pêche plus. Qu'elle s'éloigne de quoi aussi ? Du péché. Et c'est toujours la même chose. Mais d'abord qu'on regarde notre cas. Si ce n'est pas pour s'éloigner du mal, parfois les questions ne sont pas bonnes. Et quand les Corinthiens posent ces questions, voilà pourquoi Paul était censé s'assurer. Si vous posez cette question, rappelez-vous que c'est d'abord Christ crucifié que vous devez voir dans vos vies. Il doit y avoir un changement. Si ce n'est pas pour s'éloigner du mal, on peut tomber dans l'abus des questions qui consistent à, il va le traiter au chapitre 8, à connaître pour connaître. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est le chapitre prochain. Pourquoi il dit ça ? Parce que qu'est-ce que cherchaient les Corinthiens ? Beaucoup de choses à connaître. Mais dans l'amour, dans la vie avec le Seigneur, dans la vie avec les autres, il valait zéro. Et c'est un problème. Les cas des Corinthiens, c'était de faire des commentaires, des disputes et des divisions avec les questions. Et si on a envie de dire, mais ça c'était avant chez les Corinthiens, ça n'existe plus aujourd'hui. Ah, des disputes, des divisions sur des questions, ça n'existe plus. Vous savez que ça existe. Et parfois on est capable de faire du mal à un frère pour une question sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Dieu, il nous interdit de faire du mal au prochain. On oublie ça, mais on est tout à fait prêt à le faire en échange d'une réponse à une question. comme ceux qui ont répondu, ceux à qui Paul répondait. À votre avis, quelle attitude pouvaient avoir les Corinthiens? Paul, il a donné une réponse ensuite, et puis il y en a qui vont dire, ah, vous savez, Paul est d'accord avec moi. Moi, si je pensais la même chose que Paul. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec Paul, ils vont dire quoi? Ouais, moi je ne suis pas d'accord avec Paul, moi je suis plutôt de Pierre ou d'Apollos. On discute, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais quand on pose une question, on n'est pas là pour être d'accord, on est là pour dire qu'est-ce que tu veux Dieu? Qu'est-ce que tu veux dans ma vie? Et l'abus des questions, c'est de ne plus vouloir changer de vie, juste savoir. Leur manière de vivre à la corinthienne, ils ne cherchaient pas à la rejeter. Parfois même, c'était peut-être des questions pour dire, bon, est-ce que je peux faire ça quand même? Bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas bien, mais est-ce que je peux le faire quand même? Est-ce que je peux divorcer? C'est parce que les pharisiens ont posé, ah, mais quand même, on nous a autorisé la lettre de divorce. Et Jésus, il va répondre quoi? Que personne ne sépare ce que Dieu a. Dès le commencement, ce n'était pas ça le but. C'est parce que votre cœur était comment? Dur. Et si on cherche toujours une solution autre, mais Paul va ramener à la solution de Dieu. Paul ici va traiter ces questions en répondant simplement dans un but unique, amener l'Église à porter les regards sur l'essentiel, sur les priorités, Jésus-Christ crucifié, éviter de pécher. Pourquoi? On fait un petit retour arrière en Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Pourquoi se préoccuper tant de suivre ce que Dieu dit? Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À qui appartenons-nous? À qui appartenez-vous? Si vous appartenez à Dieu, vous avez une obligation. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Si vous n'appartenez pas à Dieu, bon, vous allez faire ce que vous faites d'habitude, une vie à la corinthienne. Mais vous ne pouvez pas être d'un côté et faire l'autre, ou être de l'autre côté et faire l'un. Soit vous appartenez à Dieu, soit vous ne l'appartenez pas. Et c'est ce qu'il explique depuis le début. L'essentiel est de plaire à celui à qui l'on appartient. Et dans ce chapitre 7, ça va être ça la priorité. Plaire à celui à qui l'on appartient. Et on va commencer par la fin du chapitre 7, versets 32-33, où on va voir que c'est vraiment ça. Commencer par plaire à celui à qui on appartient. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Si on n'est pas marié, on n'a qu'une seule personne à qui penser. Ce n'est pas nous. C'est qui? C'est le Seigneur. Si vous êtes marié, vous devez penser aussi à quelqu'un d'autre, à votre femme ou à votre mari, mais aussi au Seigneur. Mais il ne veut pas qu'il y ait d'inquiétude. L'idéal de ce qu'il dit, c'est d'avoir toute sa pensée dans le service pour le Seigneur. Ne vous étonnez donc pas que la phrase d'ouverture du sujet de la part de Paul dans ce chapitre mette la priorité sur celui à qui nous appartenons, en tout cas pour lui. Verset 1er, il dit quoi? Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Paul commence à répondre aux questions qui sont présentées par une pensée qui est conforme à la vie qu'il mène. Paul, est-ce qu'il a une femme? Et il va vous dire quoi? Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et certains vont dire, mais c'est quoi ce conseil? Ça veut dire quoi alors? Ah, c'est normal, alors les prêtres, ils ont raison, il ne faut pas être marié, il vaut mieux être seul, c'est ça qu'il veut dire. Pourquoi il leur dit ça? Il le dit pourquoi? Je pense qu'il est bon. Mais pourquoi il dit « je pense qu'il est bon » ? C'est la vie qu'il vit, non ? Il ne touche pas de femme. C'est ce que Dieu lui a donné. Il dit que c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'il aime sa vie. Et quand on aime sa vie, on ne va pas dire « bon, ma vie, elle est nulle, mais vous, mariez-vous. » Là, il dit quoi ? « Je pense. » Donc, il donne la vie de qui ? Le sien. Concernant qui ? Lui-même. Il est bon pour l'homme de quoi ? De ne point toucher de femme. Parce qu'il voit que c'est bon pour sa vie. Il n'est pas marié, il est célibataire, il se donne tout entier à Dieu, à la parole, et tout ça, c'est bon pour lui. Il est satisfait de sa vie. Il ne se dit pas, il me faut absolument une femme dans ma vie. Pour être heureux, il me faut cette personne-là. Et il choisit son trajet, son ministère, ses missions, là où peut-être il va trouver l'âme sœur. Ce n'est pas ça la vie de Paul. Sa priorité, c'est quoi ? Celui à qui il rencontre son maître. Paul appliquait cette discipline à sa vie. Il se plaisait dans la situation que Dieu lui avait donnée. Et au-delà d'accepter toutes les situations auxquelles Dieu le soumet, il voit même dans cette situation où certains regardaient « Oh, le pauvre, il est seul !» Une situation où il voit la bonté de Dieu. Il dit quoi ? Je pense qu'il est bon. Et ce n'est pas pour vous faire plaisir en disant, en essayant de vendre le célibat. C'est parce qu'il voit que c'est bon. Et il va même faire quelque chose au verset 7. Il va dire quoi ? Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Il va même dire, c'est génial de ma vie. Ma vie, je suis plein de liberté sur beaucoup de choses. J'ai de la joie, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais il va préciser, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais son don à lui, c'est d'être célibataire. Alors il aime son don. Et il ne s'en plaint pas. Bien au contraire, il dit aux gens, soyez comme moi. Il voyait tellement d'avantages dans cette situation que Dieu lui a donné qu'il invite les hommes à faire comme lui. Et nous, comment percevons-nous notre vie actuelle ? Comment percevons-nous la vie que Dieu nous a donnée ? Est-ce que vous vous dites, si vous êtes célibataire, « Ah, mais ma vie serait quand même mieux si j'avais une femme, un mari, ou encore peut-être un travail, une voiture, une famille, des enfants. » Ou nous disant, « Merci Seigneur de la vie que j'ai aujourd'hui. Merci de ce que tu me donnes. Merci des bienfaits que tu m'apportes chaque jour. » Paul dit, « Je pense qu'il est bon. Il est bon. » La priorité de Paul est de servir son maître, celui à qui il appartient, d'accomplir son ministère. Il est apôtre de Christ. Et pour son ministère, il voit que c'est bon de ne pas avoir de femme. Il prend beaucoup de risques, il subit beaucoup d'afflictions, il voyage longtemps. Et il voit que c'est bon de ne pas emmener quelqu'un dans ces dangers-là. Voyez votre situation actuelle comme la bonne situation que Dieu vous a donnée pour le servir. Ou la refusez-vous peut-être en vous disant, « Non, mais Seigneur, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour te servir là. » Non, vous avez tout ce qu'il faut. C'est ce que Dieu vous a donné. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est ce que je tiens à préciser, ce qu'il ne pense pas, c'est que pour être dans le ministère ou pour être un chrétien, un bon chrétien, il faut être célibataire et ne pas se marier. Ce n'est pas ce qu'il dit. Loin de là, il n'indique pas aux chrétiens que le mariage est mal, bien au contraire, dans le cadre de l'église de Corinthe, il voit le mariage même comme une solution. Au verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit ? Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ah, vous connaissez le problème des Corinthiens ? Ils vivaient dans quoi ? Dans la débauche. Alors, il va leur donner une solution. Par contre, je vous donne une solution. Parce que je vois que dans votre vie, il y a quelque chose qui cloche. Il y a de la débauche. Évitez la débauche. Et comment ? Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Paul vient de juger le cas de débauche de l'église de Corinthe et il amène la solution maintenant. Dans cette ville de débauche, vous l'avez vu dans le chapitre précédent, de prostitution même, toutes ces choses sont monnaie courante. Dans cette église, où même c'est ouvert que certains vivent dans la débauche et personne ne dit rien. Tout ça devient monnaie courante. Et il amène la solution pour éviter la débauche. La solution est simple, que l'on marie ces hommes et ces femmes qui brûlent de désir les uns envers l'autre. qui soit plutôt lié devant les hommes plutôt que de vivre des relations illicites, qui soit déclaré l'un à l'autre. Et c'est ce que le verset 3 jusqu'au verset 5 explique. C'est quoi être l'un à l'autre? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Cet homme et cette femme qui brûlent doivent s'engager devant les hommes pour s'engager chacun à rendre ce qu'il doit l'un à l'autre. Le devoir que chacun doit à l'autre. Et avoir des devoirs l'un envers l'autre, ça n'existe que dans le mariage. Hors du mariage, on n'a pas de lien, on n'a pas de devoir. Chacun fait ce qui lui plaît. On n'a pas d'obligation. Et c'est ce qu'on appelle la débauche. Une relation entre deux personnes qui ne sont pas liées aux yeux de la société et de Dieu est une relation illicite. C'est ce qu'il faut éviter. Donc pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que tous sachent que l'un appartient à l'autre. Que tous sachent que cet homme et cette femme sont liés. Et en France, accepter et signer ses devoirs, s'engager l'un envers l'autre, ça se passe où? À la mairie. À la mairie. Vous savez, même le discours du maire rappelle cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle quoi? Article, numéro, 200, 100, machin. Qu'est-ce qu'il dit dans ces articles? Faites ce qui vous plaît. C'est ce qui est écrit. Il dit quoi? Les devoirs de l'un envers l'autre et leurs devoirs dans leur famille. Ils ont une obligation l'un envers l'autre. Mais hors du mariage, chacun fait ce qui lui plaît. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la débauche. C'est illicite. Le mariage est un don, une bénédiction. Et il nous permet de nous sanctifier. Est-ce que vous saviez? Parce que quand vous vous devez à quelqu'un, vous vous devez aussi d'avoir une vie correcte devant la personne qui est en face de vous. Vous vous devez d'accepter des choses que vous ne vouliez pas auparavant. Mais vous devez aussi de prendre soin. Prendre soin, c'est ça, sanctifier aussi. Vous sanctifiez l'autre. Sanctifiez votre maison, votre famille. Attention à la débauche. Évitons-la. Marions-nous si nous brûlons de désir. Il le dit, hein. Pour les mêmes raisons que l'on peut tomber dans la débauche lorsqu'on est célibataire, il faut aussi faire attention dans le mariage car des couples sont tentés avec le même problème que des célibataires. Verset 5, si on revient, il dit « Pourquoi est-ce qu'ils doivent retourner l'un avec l'autre ? De peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Mais pourquoi il nous dit aussi de nous marier ? Verset 9. Et s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Et il y a des dons. Le célibat est un don. Celui qui est célibataire est capable d'avoir une maîtrise dans ces moments-là. Mais il y a des gens qui ont besoin de se marier. Pourquoi? Parce que s'ils ne se marient pas, ils vont vivre dans la débauche. Et vous le savez. Tout le monde sait quel est son don. C'est très simple. Si vous brûlez, c'est que vous n'avez pas le don. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir pour notre vie. Le mariage est un don. Mais le mariage n'est pas une ordonnance absolue indiquant que si une personne n'est pas mariée, elle a manqué sa vie chrétienne. Ou elle n'est pas bénie. Bien au contraire. Versets 6 et 7, nous l'avons lu déjà le 7, mais on peut lire le 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Le verset 7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Le mariage est un don, mais le célibat aussi. Chacun à sa manière, chacun différemment l'un de l'autre, sont utilisés. Paul considère son don du célibat comme un privilège, un avantage que Dieu lui a donné, on l'a déjà dit. Mais est-ce que vous qui êtes célibataire, vous vous dites que c'est un don? Ou peut-être vous vous dites, c'est une fatalité. Peut-être que vous vous dites, c'est une étape de la vie, mais en attendant, je vais me marier. Non, c'est un don dans l'état dans lequel vous êtes. Et Paul voudrait que tous les hommes soient comme lui. Certes, il n'en fait pas un ordre, mais il dit, c'est bon cette situation. Il le dit aux hommes, mais au verset 8, il le dit aussi aux femmes. Il dit à ceux qui ne sont pas mariés ou aux veuves, je leur dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et il les invite vraiment à dire, mais vivez ma vie. C'est une bonne chose aujourd'hui. Mais il y a un cas où il faut absolument et urgemment se marier, c'est pour éviter la débauche. Et comment la débauche arrive, on l'a vu au verset 9, par manque de maîtrise. S'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Si vous manquez de maîtrise envers le sexe opposé, alors il faut vous marier. Il ne sert à rien de se laisser brûler, ou de forcer le célibat, ou de faire de l'ascétisme en se disant « Oui, mais j'ai l'air plus spirituel si je suis célibataire. » Non. Ou « Je suis plus spirituel si je suis marié. » Non plus. Si un homme et une femme ont un désir l'un envers l'autre, si les deux manquent de maîtrise, ils finiront par brûler, même si ce n'est qu'un seul. S'ils ne se marient pas, ils s'engagent. S'ils ne s'engagent pas à être liés l'un avec l'autre, ils finiront dans la débauche. Ils se lieront physiquement sans pour autant avoir de devoir d'engagement l'un envers l'autre. Aucune obligation de fidélité. Chacun sa vie. Comme on dit à notre époque, on va juste faire un bout de chemin ensemble. C'est ça les mariages aujourd'hui. On va faire un bout de chemin ensemble. Et c'est un peu cette vie à la corinthienne. Une vie qui ressemble à notre vie actuelle. Pour être heureux avec quelqu'un, on va d'abord voir si ça colle. C'est pas comme ça que ça marche? On va vivre ensemble, et si on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, on se marie après. Ça, c'est dans le monde. Ah, j'ai assisté à un mariage chrétien, un mariage dans le monde, je peux vous dire, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'ordre de Dieu. Parce qu'ils ne cherchent pas la sainteté. Ils cherchent quoi? Ce qui lui plaît. Elle me plaît. Elle me plaît pas. Elle me plaît. Elle me plaît pas. C'est ça, hein? Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Pas du tout. Et on jette la feuille. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et on s'étonne. Ah, tu as connu combien de personnes dans ta vie? Ah, oh, j'avais machin, 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 machin. Et on voit une liste de personnes. On se dit, mais c'est quoi ton métier? Gigolo? Prostituée? C'est pas possible de mener une vie comme ça. Attention à notre manière de vivre. Ce qu'on appelle test, c'est ce que Dieu appelle la débauche. Attention à cette manière de faire et surtout, ne la ramenons pas dans l'église. Et ça arrive qu'on la ramène dans l'église lorsqu'on ne juge plus selon la justice de Dieu, mais qu'on laisse libre nos pensées en se disant, chacun fait ce qui lui plaît. Je l'aime, si je l'aime, je fais ça. Et puis demain, je ne l'aime plus. Combien de partenaires les gens ont aujourd'hui? Combien de tests les enfants? Combien de personnes avec qui aucun engagement a été pris, mais juste un plaisir de un an, un mois, une nuit? Est-ce notre norme? Est-ce notre conception de la vie de couple? Pour Dieu, ce ne l'est pas. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Favorisons-nous des situations qui finissent dans la débauche. Favorisons-nous les gens pour qu'ils brûlent, ou les amenons-nous à éviter le péché? Mettez deux célibataires, hommes ou femmes, dans une pièce seule, découvrant l'intimité morale ou tout ce que vous voulez l'un de l'autre, croyez-moi, ils finiront par brûler. Mettez un homme et une femme sur une île déserte, ils finiront par quoi? Par brûler. Mais dans l'église, nous nous devons de protéger, éviter la débauche. Donc il y a un choix, soit de célibat, soit de se marier. Quand on se brûle, on laisse des traces. Il y a des marques. On perd des choses dans le feu. Et les relations dans la débauche sont source de beaucoup de maux. il y a les maladies. Il y a des maladies, hein. Et on le sait tous, hein. Et vous avez aussi des enfants parents. Vous avez des enfants parfois de 14 ans qui deviennent parents. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur enseigne pas à s'éloigner. Ils vivent dans la débauche. Vous avez quoi encore ? L'avortement. Je vous le dis, moi j'ai failli être avorté. Pourquoi ? Parce que mes parents ont vécu dans la débauche. 17 ans, 19 ans, ils se sont rencontrés. Et si mon grand-père n'avait pas attrapé le fait que ma mère était enceinte, vous ne me verrez pas aujourd'hui. Des cœurs en souffrance. Oui, les enfants qui reviennent, ah, ma vie est finie. Il m'a quitté. Des adultes, toujours en souffrance. Et on se demande pourquoi ? Parce qu'ils vivent et qu'on les laisse vivre dans quoi ? Dans la débauche. Alors que si on leur donnait la solution pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari, il n'y aurait pas ce problème. Et s'ils restaient l'un avec l'autre, il n'y aurait pas ces problèmes. Si vous êtes au Seigneur, si votre vie appartient à Dieu, ne vivez pas comme si Dieu n'existait pas. Comme voulant le plaisir sans prendre compte quelle est la volonté du Maître, sans chercher la sainteté, sans chercher à éviter la débauche. Dieu nous demande de nous lier, de devenir une seule chair, un homme et une femme s'unissant devant Dieu et les hommes. Si vous manquez de maîtrise de vous-même, arrêtez le célibat. Mariez-vous. Si vous êtes déjà marié, c'est la suite, verset 10. Il y a un autre cas. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, là c'est plus moi. Je suis plus en train de donner ma vie, mon avis. J'ordonne non pas moi, mais qui ? Le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Le mariage pour les enfants de Dieu est différent du mariage pour les gens dans le monde. Si notre vie est en Christ, c'est la loi de Christ qui s'applique dans nos vies. Quand vous vous engagez dans le mariage, quand vous avez pris la décision d'être un à l'autre, que vous avez déclaré devant Dieu et les hommes que vous vous appartenez l'un à l'autre, vous devez honorer votre mariage. Honorer vos devoirs. Honorer votre promesse. Chacun ayant des devoirs communs. Et que dit la mairie, ils ont le devoir d'être fidèles. Que dit la Bible ? Ils ont le devoir d'être quoi aussi ? Fidèles. Et même si à la mairie, vous pouvez le casser en jugement au tribunal, vous ne pouvez pas le cacher devant Dieu. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Vous ne pourrez pas casser. Et Jésus va enseigner que si elle se marie, c'est un quoi ? Un adultère. Vous ne pourrez pas le casser devant Dieu. Une femme, dit 1 Corinthiens 7, 39, on peut le lire, est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Rien ne change, c'est toujours dans le Seigneur. Mais il n'y a qu'une condition. Si vous voulez vous séparer, il faut qu'il meure. Et c'est ça, hein ? Et c'est ça le problème. Quand vous dites que vous voulez vous séparer de quelqu'un, c'est un peu comme si vous disiez « J'espère qu'il va mourir. » Parce que le Seigneur veut quoi ? Que nous sanctifions notre foyer, que nous amenions la vie et non pas la mort. Vous savez ce que veut dire mourir ? Quand vous, la traduction littérale, c'est séparer de. Et quand on parle de se séparer, ce n'est pas une bonne chose. Certains disent « Ah oui, mais je vais me séparer pour son bien à lui et pour mon bien à moi. » Vous entendez jamais ça ? Dans les séparations ? Non ! C'est pas bon. C'est bon pour personne. Quelque chose va mourir. Et ce qui va mourir déjà, c'est la famille, le couple. Ce qui va mourir, c'est votre relation avec Dieu aussi. Parce qu'il vous a dit de faire quelque chose et vous avez dit quoi ? Non, je fais ce que je veux. Tant que le mari est vivant, qu'elle demeure sans se marier ? Ou, on revient au verset 11, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà deux choix. Sans se marier ou se réconcilier. Donc, toujours quelque chose où on ne va pas amener quelque chose de mauvais. C'est l'ordre de Dieu. Il le dit, Paul, ce n'est pas moi qui l'ordonne. C'est le Seigneur. Si vous désobéissez, ce n'est pas juste mon avis que je viens de donner. Ce n'est pas ma vie dont je parle. Je parle de la volonté de Dieu dans la vôtre. Jusqu'à maintenant, Paul n'avait pas émis vraiment d'ordre. Mais là, c'en est un. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, 9. Et ça, c'est le cas général du mariage. Mais il va commencer à reparler de cas particuliers. On continue. 12. Aux autres. Il y a des problèmes à l'époque de Paul, dans l'église de Corinthe, qui n'existait pas vraiment à l'époque de Jésus. Là, vous avez des gens qui se convertissent, mais qui sont déjà mariés, avec des païens. C'est un cas qui arrive aux yeux de Paul. C'est nouveau, il y a des nouveaux convertis dans un endroit où ce sont des païens. À la base, quand il parlait aux juifs, Jésus, c'était des juifs avec des juifs. Ils ne se mélangeaient pas païens et juifs. Donc, quand il parlait de la parole de Dieu, chacun était au courant. Là, un païen, est-ce qu'il est au courant que l'homme ne se sépare donc point de ce que Dieu a joint? Les païens sont au courant de ça à l'époque? Ce n'est pas leur règle de vie, hein, Corinthe. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche chez eux. Ils avaient une liberté de vie. Déjà, homme avec homme, femme avec femme, homme, femme comme on veut, adultère, débauche, ivrognerie, orgie, tout ça faisait partie de leur vie quotidienne. Ce n'était pas pour eux quelque chose de mauvais. Donc là, c'est nouveau. Aux autres, les autres cas. Ce n'est pas le Seigneur. Il revient. C'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Verset 13. Si une femme a un mari non-croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Des chrétiens qui habitaient avec des non-chrétiens avant de connaître le Seigneur. Des chrétiens qui avaient formé une famille avec des non-chrétiens avant de connaître le Seigneur. Paul va juger des cas qui sortent de la norme. Ces cas qu'il va appeler autres. Des cas autres. Et il va dire, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Paul précise qu'il s'agit là d'un jugement qu'il applique sans que ce soit un ordre direct de Dieu. Les Corinthiens qui connaissent bien Paul, qui l'ont vu fonder cette église, savent qu'ils ont affaire à un homme droit dans la parole, qui agit avec discernement, comme il l'a vu dans le chapitre 6, un homme sage, capable de discerner donc ce qui est bon ou pas. Un homme qui a déjà démontré dans sa conduite, qui sait savoir ce qui est bon ou pas. Et il va traiter ce cas, résoudre ce problème qui n'est pas commun. C'est aussi pour ça qu'il pose la question. Et Paul va montrer du discernement. Il va juger conformément à ce qu'il sait de la parole quand même. Il va traiter les cas selon le devoir du chrétien face à la parole de Dieu. Le témoignage du chrétien, l'attitude du chrétien doit être différente de celle du non-croyant. À qui appartient le chrétien? Donc il suit les règles de qui? De Dieu. Donc il va dire quoi? Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne l'a? Répudie point. Il lui est interdit de quoi? De répudier. Ce n'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de qui? À cause de Dieu. Parce qu'il est soumis à la règle de Dieu. C'est ce qu'il enseigne. Et il enseigne ça pourquoi? Parce que les chrétiens sont soumis à la règle de Dieu. Et le chrétien, il va dire, au verset 14 même, il a un rôle dans son foyer. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Nous qui avons été rachetés par Dieu, nous qui sommes sauvés, nous n'avons pas un rôle de perdre, mais un rôle de sauver, d'amener la sainteté dans le lieu où nous trouvons. Et donc nous devons vivre la sainteté là même où nous sommes au milieu des non-croyants. Et dans une maison, pour tout autant. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. La vie de cette femme doit sanctifier ce mari, l'amener à la sainteté. Et la vie de ce mari doit amener sa femme à la sainteté. Et leurs enfants, ils sont saints. Parce qu'ils reçoivent aussi quoi ? La sainteté de l'autre. L'enseignement, la vie, l'exemple, tout ce qui va avec. Et si vous connaissez des cas comme ça, ça existe. Regardez Timothée. Qui est la personne de foi dans la famille ? Sa grand-mère et sa mère. Est-ce que Timothée a appris l'évangile depuis qu'il est petit ? Bien sûr que oui. Voilà pourquoi c'est l'exemple qu'il a donné. Et on ne parle pas du père parce que le père c'était un grec, on ne sait pas quelle était sa vie en tout cas. Mais quand on parle de foi, on parle de la mère et de la grand-mère. Et ici c'est pareil, dans un foyer vous ne dites pas « Non mais c'est avec un non-chrétien, impossible que je puisse vivre selon la part que Dieu m'a donnée. » Si c'est la part que Dieu vous a donnée, c'est de sanctifier quoi votre foyer ? Le croyant appartient à Dieu. Donc, il doit vivre selon Dieu. Mais le non-croyant, il appartient à qui ? Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'est-ce qu'on fait ? On le retient, on court après, on dit « Mais écoute la parole du Seigneur !» Qui se sépare ? Il est conforme à quoi ? À sa vie. Vous lui demandez d'imposer la vie selon le Seigneur ? Mais non ! Il va se séparer. Pourquoi ? Parce que cette vie avec vous ne le plaît plus. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui est toujours en train de me parler du Seigneur. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui est toujours en train de vouloir aller à l'église, quelqu'un qui est toujours en train de lire la Bible, quelqu'un qui est toujours en train de prier. Ça arrive ! Et il va faire quoi ? Il va vouloir se séparer. Mais là, Paul va dire une chose. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Jusqu'à maintenant, vous étiez liés. Et souvent, on se dit, je suis juste lié à une personne. Ils sont liés ensemble parce que cette personne appartient à Dieu. Il est lié à Dieu. Cette personne croyante est liée à Dieu. Il ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à Dieu. Par contre, lui, il n'est pas lié à Dieu. Et s'il s'en va, il lui a déjà dit qu'il voulait habiter avec lui. Donc, c'est lui qui veut partir. Alors qu'il parte. Dieu nous a appelés à vivre en paix. On ne va pas aller au tribunal et on ne va pas aller porter plainte à gauche et à droite sur cette personne. On va vivre en paix. Parce que le but est toujours quoi ? D'amener la paix, d'amener la sanctification, d'amener le salut. Et parfois, on ne comprend pas ça. On se quitte ou la personne nous quitte comme les païens se quittent, à coups de fusil. Là, dans une vision du monde, c'est le mari qui est en train de sortir avec la valise qui est jetée par les fenêtres. C'est comme ça, normalement. Non. Là, il part. C'est lui qui est fâché, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes en paix. Et vous voyez la sagesse de Paul ? Ce n'est pas un ordre de Dieu, mais il applique quoi ? Ce qu'il sait de Dieu. Et parfois, nous tombons dans des situations autres. Ça arrive. Vous avez des situations dans Corinthe qui ne sont pas des situations que l'on va vivre. Vous avez des situations que l'on vit aujourd'hui. On se dit, mais comment je fais ? Ce n'est pas écrit ça. Oui, mais les ordres de Dieu sont clairs. Si vous appliquez ce que Dieu dit, si vous ne répudiez pas votre femme, votre mari, vous accomplirez simplement ce que Dieu veut. Si vous vous soumettez à la parole de Dieu. Même si ce n'est pas le cas là qui est traité. Une vie de sanctification est nécessaire partout où nous allons. Nous sommes le temple de Dieu. Où que nous soyons, ce temple se trouve là. Dans notre foyer, dans l'église, à notre travail, partout où nous allons. Donc nous rendons systématiquement un culte à Dieu, souhaitant accomplir la volonté de Dieu. Et nous allons conclure avec ce dernier verset. Verset 17. Pardon, verset 16 d'abord, avant de conclure. Verset 16. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Vous voyez ? Vous ne savez pas. Ce qu'on vous demande juste, c'est de vivre quoi ? Dans la sainteté, là où vous êtes. Mais vous ne savez pas si vous sauverez votre mari, vous ne savez pas si vous sauverez votre femme. Et j'ai entendu un témoignage d'une famille qui est maintenant à Fréjus, qui me disait 12 ans vécu avec son mari qui s'opposait à elle. Et au bout de 12 ans, il s'est converti. Je ne sais pas pourquoi. 12 ans, c'était toujours la galère. Et au 12e année, il a accepté le Seigneur. Il a juste fait que vivre sa vie, à suivre ce que le Seigneur disait. Il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr, sa vie n'est pas parfaite, mais on voit une personne qui persévère dans le Seigneur. Et qu'est-ce que vous en savez? Si vous sauverez ou non? Ce que je ne dis pas, c'est parfois ce que les gens disent, « Ah, ben, je peux aller avec un bon chrétien, alors peut-être que je le sauverai. » Non, non, non. C'est dans le Seigneur. Ce que l'on dit, c'est que si vous êtes déjà avec un non-chrétien et que vous venez au Seigneur, vous ne vous séparez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Vous ne le savez pas. Mais une chose que l'on doit savoir, et c'est sur ça qu'on va conclure, c'est le verset 17. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Je ne sais pas quelle est la part de chacun ici. Je n'en ai aucune idée. Et pas besoin de le savoir. Mais vous, vous la savez. Vous la connaissez. Je ne sais pas combien est difficile votre situation ou non. Vous le savez. Mais Dieu vous a appelé à vivre cette situation, cette vie-là. Et non celle de vos voisins. Il vous a appelé, comme il est dit, à marcher. C'est-à-dire à avancer. Pas à faire du surplace. Dire, ah mais là, je ne peux plus rien faire là. Je suis bloqué. Je ne peux plus avancer, Seigneur. Non, marcher selon la part que le Seigneur vous a fait. Et cette part, ce n'est pas une option. On dit, bon, je suis en option célibat avec futur mariage. Ou je suis en option mariage, mais bon, je préfère le célibat. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. C'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose où on doit se poser la question, est-ce que je dois le faire ou pas? Est-ce que ma vie doit être convenable ou pas? Est-ce que ma vie, je dois dire, il est bon? Ma vie est bonne. Est-ce que vous pouvez le dire? Si vous croyez que vous appartenez à Dieu, Dieu vous mettra-t-il dans la situation qui est mauvaise pour vous? Non. Alors vous avez une vie qui est bonne. Acceptez-la. C'est juste ici la première partie quant à la réponse de Paul. Il y aura une continuité dans les prochains dimanches. Un appel à accepter la situation que Dieu nous donne. Vous êtes célibataire? C'est une bonne chose. Aimez votre situation pour garder les pensées pleinement dans le service du Seigneur. Vous êtes marié? C'est une bonne chose. Aimez cette bénédiction, c'est une grâce pour notre sanctification et pour sanctifier. C'est le don de Dieu. Servez pleinement Dieu dans la situation que Dieu vous a donnée. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser? Acceptez votre situation, mais ne vivez pas dans la débauche, mariez-vous. Vous vivez dans une situation compliquée dans votre mariage? La séparation n'est pas une option. Comme vous avez été sanctifié, vous avez le devoir d'amener la sanctification dans votre foyer. Vivez la parole de Dieu dans le milieu favorable ou non. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, sachez qu'une chose est certaine, c'est une occasion de glorifier Dieu. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Amen. Prions. Oh Seigneur, tu connais la vie de chacun, la part de chacun. Tu connais le besoin de chacun. Et on voit ta sagesse, mon Dieu. On voit surtout ton désir pour nous, que nous vivions dans la sainteté, que nous vivions éloignés du péché. Seigneur, merci pour ce beau projet. Merci parce que c'est du bonheur que tu nous souhaites, c'est bon. Il est bon de t'appartenir. Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions encore grandir dans cette connaissance de toi, cet amour qui édifie, que nous puissions, Seigneur, l'accepter, mais bien plus, l'aimer, en profiter et te remercier chaque jour pour toutes ces choses. Et je te remets, Seigneur, chaque âme, chaque personne, que chacun puisse aujourd'hui repartir avec sa part, la part que tu lui as donnée, avec une conviction aussi dans sa vie, celle que tu donnes toi. Merci en tout cas, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous éclairer. Et que chaque jour, Seigneur, elle est notre lumière pour notre sentier, pour savoir où on doit avancer. Bénis encore les âmes qui sont là, mes frères et sœurs. Bénis ceux qui ne te connaissent pas, peut-être qui puissent désirer, Seigneur, cette paix dans ta parole, dans le fait de t'appartenir. Nous te remettons les chants qui vont être faits, Seigneur, et aussi, Seigneur, les conversations aussi après le culte, que toutes ces choses, Seigneur, puissent être pour ta gloire. Sans Christ que je fais cette prière. Amen. On va prendre le dernier chant. Il nous dit, vers Jésus, lève les yeux. On peut se lever pour ce chant. Voilà, c'est une invitation où doit être porté nos regards. Pas sur cette terre, pas sur notre vie, mais vers qui ? Vers Jésus, lève les yeux.
Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux.
Les yeux dans la semaine, gardez les yeux fixés vers le Seigneur dans tout ce que vous faites, qui vous accompagne dans sa grâce. Amen.